OK. Donc, on est rendu dans le chapitre 9, verset 23, on va lire jusqu'au chapitre 10, verset 39 à la fin du chapitre 10. Puis on est rendu maintenant on va regarder un meilleur sacrifice. Comme on dit toujours dans l'Épître aux Hébreux, c'est plus excellent, supérieur, meilleur. Puis on avait vu un plus grand prophète, un plus grand messager, un plus grand serviteur, un meilleur repos, une meilleure sacrificature, une meilleure alliance. Maintenant, on va voir un meilleur sacrifice. Puis après, ben, au chapitre 11, c'est la foi. Chapitre 12, 13, c'est comment doivent vivre les chrétiens. C'est qu'on va lire, avant de commencer, on va lire à partir du verset 23 dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit: Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que le Seigneur vous ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole ensemble. Chacun, si vous voulez, on va commencer avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on est dans ta présence encore pour se nourrir de toi, Seigneur, se nourrir de ta parole. On te remercie pour des choses comme tu nous enseignes dans cette épître, Seigneur, des choses plus grandes, des choses plus excellentes, des choses meilleures. Puis ce soir, Seigneur, on va regarder un meilleur sacrifice. Quand on pense au sacrifice de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert une fois pour toutes, un sacrifice parfait, ça nous donne l'assurance, notre Dieu, que tu as reçu ce sacrifice en le ressuscitant des morts et que nous, maintenant, nous sommes reçus sur la base de son sacrifice et de sa résurrection. Merci encore une fois, Seigneur, et bénis ce temps passé ensemble dans ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Donc, comme on a dit, on a vu que Christ est plus grand prophète, messager, serviteur, que le christianisme offre, nous fournit un meilleur repos, une meilleure sacrificature, une meilleure alliance. Mais le fondement de tout ça, c'est vraiment, c'est parce que c'est basé sur un meilleur sacrifice. Ça, c'est, le sacrifice devient tellement important que tout est basé sur ce sacrifice-là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu lui-même. Et il est venu pour accomplir ce sacrifice parfait, parce que tout repose sur ce sacrifice-là. S'il n'avait pas de sacrifice, eh bien, toutes ces choses-là seraient en vain. C'est vraiment le fondement solide pour tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dans. C'est basé sur le sacrifice du Seigneur Jésus, qui est un meilleur sacrifice. Donc, la supériorité de ce sacrifice-là est démontré nettement, premièrement, par le fait qu'il est unique, deuxièmement, par l'endroit où le sacrifice a été introduit, et puis troisièmement, par le résultat accompli par le sacrifice. Donc, quand on pense à la supériorité de ce sacrifice-là, c'est clair qu'il est répété à plusieurs reprises dans le passage que le sacrifice est unique. En comparaison, comme on a dit les dernières fois, on compare le nouveau avec l'ancien. Et il y a des similarités, il y a des contrastes. Ça, c'est un des contrastes, c'est que les sacrifices dans l'ancienne alliance étaient répétés, il y en avait constamment. Mais le fait que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ était un seul sacrifice, une fois pour toutes, démontre la supériorité de ce sacrifice-là. On le voit dans le chapitre 9, versets 25 à 26, il nous dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, c'est pas, il ne revient pas pour faire un autre sacrifice, mais il revient pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Regardez le chapitre 10 et le verset 10 aussi. Il nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis tout pour toujours à la droite de Dieu. Le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, on voit vraiment comment le sacrifice étant, il démontre, c'est bien clair dans tout le passage ici, qu'il démontre que le sacrifice était un seul sacrifice, une fois pour toutes, à ne pas être répété. Et c'est l'erreur de la religion. La religion offre constamment des sacrifices parce qu'ils n'ont pas encore la conscience de leurs péchés qui sont enlevés pour l'éternité avec l'assurance d'un salut éternel parce qu'ils ne comprennent pas l'efficacité du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes. Puis quand on pense à l'endroit où le sacrifice a été introduit, bien, les versets dans le chapitre 9, les versets 24 et 26, il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Puis, pour le résultat du sacrifice, bien, on pense à son apparition pour nous qui l'attendons. Donc, il va revenir une deuxième fois sans péché. Ça, souvent, moi, je dis que ceux qui attendent l'homme de péché, moi, j'attends l'homme sans péché. Et comme c'est sur ce verset-là ici qui dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, le résultat, puis on verra aussi notre réaction. Donc, premièrement, le fait qu'il est unique. Dans le verset 22, on avait vu qu'il nous avait dit dans le chapitre 9, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, c'est pour ça que tout était purifié dans la loi par du sang. Il y avait des sacrifices qui étaient multiples, mais ici, dans la réalité aussi, il y avait besoin du sang pour purifier, puis c'était purifié par le sang une fois pour toutes. Donc, ici, c'est dans l'image la contrepartie, mais dans la nécessité, il fallait vraiment un sacrifice plus excellent. Parce que du fait que dans l'image ou dans l'ombre des choses qui étaient dans l'ancienne alliance, eh bien, ces choses-là étaient juste une représentation. C'est pour ça qu'il fallait constamment répéter les sacrifices. Mais là, ces sacrifices-là ne pouvaient jamais ôter les péchés. Il était juste comme une image pour nous faire comprendre qu'il fallait que quelqu'un paie pour le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis le sang versé, c'est la mort aussi. Donc, c'est ce que le sacrifice de Christ accomplit d'une façon permanente. Donc, le sacrifice de Christ l'accomplit d'une façon permanente. Alors, chapitre 10, les versets 1 à 3, il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir si ces sacrifices-là avaient pu enlever les péchés? Mais quand Aaron, pour la première fois, a offert son sacrifice, il n'y aurait plus été question de sacrifice. Mais ils ont continué, puis les fils d'Aaron ont continué à offrir des sacrifices constamment à chaque année parce qu'il n'y avait pas encore, il n'y avait pas eu cette assurance ou cette connaissance que leur péché était enlevé. Au verset 2, il dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, le souvenir de leurs offenses, là, était rappelé à chaque année, parce qu'à chaque année, il fallait qu'ils refassent encore ces sacrifices-là, mais ça leur rappelait qu'il y avait encore des péchés. Puis, Puis regardez, quand on compare ça au verset 26 du chapitre 6, qui disait, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Le Seigneur Jésus, si ça avait été pareil au sacrifice de l'ancienne alliance, eh bien, il aurait fallu que le Seigneur Jésus revienne constamment, puis souffre encore et meure encore sur la croix. Mais ce n'est pas le cas parce que c'est un sacrifice parfait. OK, aussi le sacrifice, il est unique parce que c'est celui qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Avant que Moïse reçoive la loi, avant que toutes les ordonnances de l'ancienne alliance soient données, ben Dieu avait dans sa pensée le sacrifice qui était déjà dans sa pensée, même avant la fondation du monde. Dans 1 Pierre, les versets 1, le chapitre 1 de 1 Pierre, les versets 18 à 20, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, dans la pensée de Dieu, même avant qu'il donne les instructions à Moïse sur la montagne pour les sacrifices qui devaient être accomplis, Dieu, lui, avait en pensée, il avait dans sa tête et il avait déjà planifié le sacrifice parfait de Christ. Donc, c'est celui qui était en vue, dans les ombres et les images des choses à venir, c'était le sacrifice de Christ qui était en vue. Puis c'est le fait que ce sacrifice-là était en accord avec la volonté de Dieu. Les autres sacrifices, oui, OK, on peut dire que c'est Dieu qui avait donné l'ordre de faire ces sacrifices-là, mais celui-là, c'est celui qui était vraiment dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. À partir dans le chapitre 10, si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, il dit ici, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. En pensant au sacrifice de l'Ancien Testament, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu n'as pas accepté ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, dans l'Écriture, dans la pensée de Dieu, il était question de lui. C'est pour ça que quand Jean le Baptiste l'a vu, il a pu dire, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, voici un agneau, mais voici l'agneau de Dieu. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté. Donc, c'est selon la volonté de Dieu. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, on voit ici que le sacrifice de Christ était vraiment selon la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, en venant sur la terre accomplir ce sacrifice-là, il était dans la volonté de son Père. Il était obéissant à la volonté de son Père, puis parce que son Père, c'était vraiment sa volonté que il voulait nous sanctifier par une offrande, puis cette offrande-là, c'était l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, dans le chapitre 10, au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, c'est quoi la volonté? Ben, c'était la volonté, c'était qu'on soit sanctifié, puis qu'on soit par l'offrande du corps. Donc, vraiment, on voit là, que Dieu, tout ce qu'il avait en vue, là, c'était de nous sauver, de nous sanctifier, de nous mettre à part, mais le faire par le sacrifice, l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ. On va aller voir dans le chapitre 2, pour un moment, au verset 10. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire, donc c'était sa volonté, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Donc, ce qu'il voulait, c'est qu'est-ce qui était sa volonté? C'était de conduire à la gloire beaucoup de fils, puis pour le faire, ben, il a élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut, celui qui va les conduire. C'est lui qui est le prince de notre salut. Donc, c'est ça qu'on voit la supériorité du Seigneur, du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est celui qui était selon la volonté. Ça, c'était vraiment le but dans l'incarnation. C'est-à-dire quand Dieu s'est fait homme, quand Dieu a pris une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché, eh bien, c'était le but dans le verset 5, il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc, dans sa volonté, il a formé un corps au Seigneur Jésus-Christ. Dieu, qui est esprit, est devenu chair. Il a pris un corps d'homme dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui était de sanctifier beaucoup de fils pour les mener à la gloire, mais il fallait une offrande. Et cette offrande-là, ou ce sacrifice-là, c'était le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'était aussi selon les prophéties, parce que les prophéties donnaient. Ben, quand on pense à la prophétie, on peut retourner à la première prophétie qu'on a de l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. Ben, c'est quand l'homme a péché, au début, quand l'homme a péché, Dieu a donné un jugement au serpent. Il avait dit que la postérité de la femme viendrait écraser la tête du serpent, puis que le serpent lui blesserait le talon. Donc là, c'est la première prophétie qu'on a que le Seigneur Jésus viendrait pour écraser la tête du serpent, mais pour le faire, lui serait blessé au talon. Donc, quand on a ici, on a beaucoup de choses. Vous savez, quand la première mention d'une chose dans l'Écriture englobe toute la doctrine, mais les détails ne sont pas tous expliqués. Mais les détails sont là, on pense à la victoire finale, écraser la tête du serpent, mais on pense à la blessure au talon. Ça implique que ça va se faire dans la douleur. Puis, ça nous parle du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ quand il a accompli l'écraser la tête du serpent. Mais aussi, on voit que c'était selon les prophéties. Dieu avait prophétisé que viendrait un jour l'agneau de Dieu qui ôterait les péchés du monde par son sacrifice. Donc, c'est dans les prophéties, c'est dans les Écritures. Au verset 7 du chapitre 10, il dit, dans le rouleau, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Attendez, c'est dans le chapitre 10 au verset 7. Verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Donc le rouleau du livre, on pense à l'écriture prophétique, on pense à la parole de Dieu qui avait annoncé ces choses-là. Et une autre façon aussi qu'on voit la supériorité de ce sacrifice-là, c'est qu'il supprime tous les autres sacrifices. Par ce sacrifice-là, maintenant, les autres deviennent inutiles. Parce que leur but étant de parler du sacrifice qui viendrait, de pointer vers le sacrifice qui viendrait un jour, eh bien, un coup, ce sacrifice-là, une fois que le sacrifice est arrivé, qui a été accompli, bien, ça rend les autres inutiles. On n'a plus besoin d'offrir des autres sacrifices. C'est ça qui est important dans le chapitre 10 au verset 9. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Puis là, il dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, c'est la première chose qui a été supprimée par ce nouveau sacrifice-là qui est parfait et qui supprime les autres. Donc, on ne peut plus avoir les autres. Encore dans le thème de l'Épître, comme on revient souvent sur ce thème de l'Épître-là, c'était de laisser pour prendre. On ne peut pas avoir les deux. Il faut vraiment se détourner de ces choses-là pour accepter maintenant le sacrifice qui supprime les autres. Donc, les Hébreux ici ne devaient plus retourner à ces sacrifices-là. Puis, si on pense à leur façon de penser, là, c'est quelque chose pour eux autres de dire que maintenant, ils ne feraient plus de sacrifices. Là. Parce que nous, on n'est pas habitués à ça. Mais eux, ça faisait partie de leur religion depuis qu'ils étaient tout petits, que quand on péchait, il fallait amener un animal qui deviendrait la victime pour nos péchés, qui devait être sacrifié. Puis là, maintenant, on leur dit, ben, faut plus ces sacrifices-là, faut plus faire ces sacrifices-là, parce que maintenant, on a un sacrifice parfait. Pour nous autres, c'est quand même pas difficile d'abandonner les sacrifices, parce qu'on n'a pas été des gens qui ont connu cette religion-là. Mais pour les Hébreux ici, là, c'était quelque chose de dire maintenant on cesse, on n'offre plus ces sacrifices-là, parce que maintenant, il a été le sacrifice parfait est venu, puis les autres deviennent inutiles. Ça, c'est important. Mais la seule façon qu'on va abandonner la première chose, c'est qu'il faut que la deuxième soit suffisante. C'est pour ça qu'il nous donne ces détails-là ici. C'est pour ça qu'il nous donne cet enseignement-là, pour nous montrer que oui, il est suffisant, ce sacrifice-là. Il est selon la volonté de Dieu, il est selon les prophéties, il est une fois pour toutes, il accomplit parfaitement ce que Dieu s'attendait, c'est-à-dire sanctifier plusieurs fils pour les mener à la gloire. Puis ça, c'est tout accompli par ce sacrifice-là. C'est pour ça que maintenant, les autres ne sont plus utiles. Puis les Israélites, ils prouvaient qu'ils acceptaient, ils prouvaient qu'ils recevaient, ils prouvaient qu'ils étaient satisfaits. De quelle façon? Bien, en abandonnant les autres sacrifices. Puis c'est sûr que si on dit, ah oui, le sacrifice est suffisant, puis, mais qu'on continue d'aller imaginer que ces gens-là qui étaient une fois sanctifiés, une fois pour toutes par l'offrande du Seigneur Jésus-Christ, de retourner au temple pour offrir encore des sacrifices, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Puis c'est souvent ça, la religion, c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit, oui, c'est beau, le Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut accomplir les exigences de la religion. Mais si on va accomplir les exigences de la religion, c'est parce qu'on n'est pas satisfait. C'est parce qu'on ne croit pas à le fait que le sacrifice est suffisant, la toute suffisance du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Puis les Israélites prouvaient vraiment qu'ils avaient la foi quand, ben c'est quand ils abandonnaient la religion juive. Ça c'était la preuve qu'ils étaient satisfaits. Puis c'est la même chose pour nous autres aussi, quand on abandonne toute religion parce qu'on est satisfait par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, on est dans une pleine assurance. Parce qu'on sait que ces choses-là ne pouvaient jamais. Mais ce sacrifice-là, une fois pour toutes, nous amener à la vie éternelle. Donc, nous aussi, on doit abandonner toute chose. Regardez dans le chapitre 10, les versets 38 à 39. Il dit ici, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Puis là, ici, il démontre que la pleine satisfaction nous amène à laisser de côté ces choses-là pour puis de ne pas se retirer, pas de retourner en arrière, mais de rester vraiment dans la certitude. Puis, si on compare ça avec les versets 11 et 12, du chapitre 10, il dit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Mais, vous savez, la foi a besoin d'être mise à l'épreuve. Puis, c'est ça ici qu'on voit là. La foi a besoin d'être mise à l'épreuve. C'est facile de dire je crois. Si on n'a pas notre foi est pas mise à l'épreuve. Un petit peu comme quelqu'un qui dit hein, qu'un alcoolique qui dit oh, moi je peux arrêter de boire n'importe quand, j'ai pas de problème, mais il arrête jamais par exemple. Mais il prouve jamais que ce qu'il dit est réalité. Peut-être qu'il pense qu'il peut arrêter n'importe quand, mais il l'essaye pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur, peut-être qu'il ne serait pas capable. Puis, mais quand ici la foi là. Quand elle est mise à l'épreuve, c'est le Seigneur, il veut voir cette foi-là mise à l'épreuve. Puis le Seigneur, il met la foi à l'épreuve. Il l'a fait avec Abraham. Hein, quand Abraham, quand il lui a demandé d'offrir son fils Isaac, il a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Puis Abraham, qu'est-ce qui a été le résultat? Ben Abraham, parce qu'il avait la foi, était capable d'aller pour offrir son fils. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il offre son fils, mais il a vu l'épreuve de la foi d'Abraham. Puis c'est important, la foi a besoin d'être mise à l'épreuve pour démontrer la réalité de la foi. Comment est-ce que nous autres, on sait qu'Abraham avait la foi? Ben, c'est parce qu'il a été, quand il a dit que Dieu fit la promesse à Abraham, puis Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, mais là, on ne la voit pas, sa foi, là. C'est Dieu qui nous dit qu'il a la foi. Mais quand, par exemple, comme Jacques nous dit, qui va pour offrir son fils, ben là, on voit sa foi. Là, il savait pourtant que Dieu était capable de le ressusciter, qu'il nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Il nous dit qu'il est capable, que là maintenant, on peut dire oui, Abraham est un homme de foi, parce que sa foi étant mise à l'épreuve, elle s'est démontrée comme réelle. C'est important. C'est pour ça que quand Jacques dit qu'on est justifié par les œuvres, là, ben, c'est justifié aux yeux des hommes. Mais Abraham avait été justifié aux yeux de Dieu par sa foi, puis aux yeux des hommes, il a été justifié par les œuvres. C'est pas une contradiction. Parce qu'il était sauvé bien avant d'être justifié à nos yeux, là. Il était justifié bien avant ça aux yeux de Dieu quand il a mis sa foi en lui. Donc, il y a une période pour mettre la foi à l'épreuve. Voyez-vous, verset 13, il dit, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est ça le temps de l'épreuve de la foi. Le Seigneur Jésus a accompli la victoire. Il a écrasé la tête du serpent à la croix, mais là maintenant, il attend jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il y a une période de temps. Puis c'est pour ça que le Seigneur il dit aussi sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, il leur dit qu'ils ne comprenaient pas, mais il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc c'est ça l'épreuve de la foi, c'est la souffrance avant la gloire. C'est sûr qu'Abraham a été glorifié, mais il a souffert avant. Ça devait être une souffrance grande pour lui d'offrir son fils. Mais il faisait par la foi, Dieu lui demandait, puis sa foi en Dieu lui permettait d'obéir à ça. Donc, mais si on entrait tout de suite dans la gloire, si on était sauvé par la foi, puis on entrait tout de suite dans la gloire, ben notre foi ne serait pas mise à l'épreuve. Notre foi ne serait pas démontrée. C'est ça que le Seigneur nous demande, de rendre un témoignage dans le monde dans lequel on vit par la foi, de démontrer notre foi. Quand est-ce qu'on démontre notre foi? Les gens ne la voient pas, notre foi. Mais ils voient l'évidence de notre foi quand on est capable de vivre en vue des choses éternelles pendant qu'on est ici sur la terre. Pendant qu'on est ici sur la terre, on renonce aux choses temporaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les choses dans le monde dans lequel on vit. On a des maisons, on a des autos, on a des choses qu'on a besoin pour continuer à vivre dans ce monde-là, mais pour nous autres, c'est pas ça le but. Puis ça devient évident, vous savez, les gens autour de nous, ils savent pourquoi qu'on vit. Est-ce qu'on vit pour les choses éternelles, des choses que eux ne voient pas, mais nous, on les voit par la foi, pas par les yeux, mais par la foi. Puis quand les gens nous voient vivre dans la vie présente en vue de ce qui s'en vient, ben, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, nous autres, on a la foi. On sait qu'il y a quelque chose. Des fois, on parle du Seigneur à des gens, puis ils disent, ah oui, c'est ça, quand tu meurs, c'est 6 pieds sous terre, c'est fini. Nous autres, on dit non. Non, parce que pourquoi? Parce qu'on vit en vue de la vie éternelle. On vit pour les choses qui vont demeurer éternellement. Puis on laisse les choses passagères. Il disait ça ici, là. Il dit au verset 32 du chapitre 10, il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. C'était l'épreuve de la foi. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes. Oui, tu sais, on dit, si on virait fou, qu'on parlait de ça. Mon frère me racontait aujourd'hui, il y avait, quand on travaillait dans le monde, avant d'être sauvé, il y avait un homme qui, lui, était sauvé. Puis lui, mon frère qui n'était pas sauvé, il voyait ce que le patron puis les autres travailleurs disaient de lui. Il disait, il est fou, il vit, il donne 10% de son salaire, puis toutes les choses qu'il racontait sur lui. Puis, mais c'est pour ça, on était exposés en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, leur foi était mise à l'épreuve, puis quand leur foi était mise à l'épreuve, ben, elle était démontrée. Puis les gens, c'est la même chose pour nous autres, on démontre notre foi aux gens qui nous entourent. C'est une chose de dire qu'on a la foi, mais est-ce qu'on est capable de vivre par la foi, pour que les gens puissent voir que vraiment, nous, là, on croit qu'il y a une vie éternelle après, puis que cette vie-là a plus de valeur que la vie présente. Donc, on ne s'attache pas aux choses terrestres, on s'attache aux choses célestes, puis on va le voir dans le chapitre 11, vraiment ici, tous ceux qui ont une nuée de témoins qui nous montrent qu'eux, ils ont vécu pour l'éternité et non pour le temps présent ici sur la terre. Parce que pour les gens du monde, là, ils ne comprennent pas, eux autres. Ils disent que nous autres, on perd notre vie, là, parce qu'on ne vit pas pour les plaisirs, on ne vit pas pour l'honneur d'ici, on ne vit pas pour la gloire d'ici, la puissance d'ici. On vit dans une réalité qui est éternelle. Puis ça c'est. Les gens, ils savent si on vit de cette façon-là. Ils voient dans notre façon d'agir. Mais deuxièmement, là, on a vu que c'est un meilleur sacrifice du fait qu'il était unique, puis qu'est-ce qu'il a accompli. Mais c'est l'endroit où le sacrifice a été introduit. Ça démontre encore que c'est un meilleur sacrifice parce que c'est l'endroit. Les sacrifices qui étaient offerts sur la terre ne pouvaient pas être offerts là où le sacrifice de Christ a été offert. Il y a un seul sacrifice qui a été offert dans cet endroit-là, puis c'est le sacrifice de Christ. C'est le sang de Christ qui a été porté. C'est dans le vrai tabernacle dans le ciel. Quand ils faisaient tous ces sacrifices-là, puis ben, quelqu'un disait qu'à Jérusalem, là, dans le temps des fêtes, là, ben, le sang coulait, là. Il y avait des sacrifices qui étaient offerts, mais jamais que ce sang-là a été porté dans le sanctuaire céleste, dans la présence de Dieu. Ben, il était apporté une fois par année dans le lieu très saint, mais ça, c'était une image. C'était pas le vrai lieu très saint. C'était en image du vrai lieu de la présence de Dieu. Et il nous parlait que le sacrifice de Christ, un jour, serait apporté au-delà du voile dans le sanctuaire céleste. Verset 24 du chapitre 9, il dit ici, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. » L'autre était en imitation. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Imaginez-vous ici, là, c'est vraiment la réalité de la face de Dieu. Il était dans la présence même de Dieu, pas une image, mais la réalité de la présence de Dieu. Comme on a dit, le tabernacle ici-bas, il était juste une imitation. Puis c'était juste pour nous instruire. Parce que c'est des choses qu'on voyait, on ne voit pas nous autres. Quand Christ a offert son sacrifice dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire céleste, on n'était pas témoin de ça. Puis quand le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, mais il y avait un voile, il ne le voyait plus, là. Il était au-delà du voile, puis il offrait son sacrifice. Mais c'était en image, ça, mais c'était pour nous instruire qu'on n'entrait pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Mais c'était pour nous instruire que ça prenait le sacrifice de Christ pour entrer dans la présence de Dieu. Puis maintenant, nous, on a accès à cause que Christ a paru là pour nous dans la présence de Dieu. Mais ce tabernacle terrestre-là, c'était pour nous instruire sur la sainteté de Dieu, puis qu'il fallait la réconciliation. On avait besoin d'être réconciliés parce que n'étant pas réconciliés, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Puis il fallait pour cela la rédemption. C'était pour nous instruire qu'il fallait un moyen de rédemption. Puis ce moyen de rédemption-là, ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le sanctuaire céleste, la présence de Dieu, là, c'est l'endroit où la transaction va s'accomplir, devait s'accomplir, puis elle s'est accomplie une fois pour toutes. Donc, une fois le sacrifice offert, l'œuvre de rédemption accomplie, c'était pour toujours. Dans le chapitre 9 au verset 26, il disait, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc ici, l'œuvre de rédemption, c'est là qu'elle devait s'accomplir, c'est là qu'elle s'est accomplie, puis quand elle s'est accomplie là, ben, ça démontre que c'était un sacrifice plus excellent, un meilleur sacrifice qui lui pouvait être offert. Jamais on n'aurait pu offrir le sang des taureaux et des boucs dans ce sanctuaire-là. Ça n'aurait pas été suffisant. Ça n'aurait pas fonctionné. Il fallait vraiment le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Puis il y a aussi le témoignage du Saint-Esprit. Saint-Esprit rend témoignage de ces choses-là. Voyez-vous, dans le chapitre 10, verset 14 à 18, il dit ici, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit atteste. Il fallait que, il dit, quand ça va arriver, je vais mettre ma loi dans leur cœur, je vais les écrire dans leur cœur. Ça va être le Saint-Esprit nous atteste, il nous témoigne de ces choses-là. Donc, le travail accompli dans le ciel, ça fait le vrai travail qui est fait dans le cœur. Au verset 16, il dit, voici l'alliance, je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Il était sur des tables de pierre avant. Maintenant, il est sur les cœurs. Je les écrirai dans leur esprit. Donc, ça nous touche profondément. Là. Maintenant, ces choses-là sont écrites sur notre cœur, puis dans notre esprit. C'est en relation directe avec nous autres. Le Saint-Esprit nous atteste ces choses-là. Puis, le travail aussi, du fait que le travail qui a été accompli dans le ciel, l'endroit où ce sacrifice-là devait être offert, mais le travail accompli dans le ciel, bien, on voit qu'il est aussi efficace avec Dieu. Ce travail-là est efficace avec Dieu. Dieu est satisfait. Dieu est pleinement satisfait. Ce qui n'avait pas été le cas dans l'Ancienne Alliance, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Dieu prouve qu'il est satisfait. Puis comment il l'a prouvé? Bien, il l'a prouvé en ressuscitant le Seigneur Jésus d'entre les morts, puis en nous donnant son esprit. Le fait qu'il ait mis son esprit en nous, c'est que maintenant, on a atteint la perfection en position. Puis, Dieu, il n'a pas mis son esprit en nous pour qu'on termine dans l'étang de feu. Voyez-vous, Dieu n'aurait pas mis son esprit s'il n'y avait pas la certitude que notre destination éternelle, c'est sa présence pour l'éternité. Dieu n'aurait pas mis son esprit en nous pour qu'on se retrouve dans l'étang de feu. Donc, c'est toutes ces choses-là. Vous savez, il y a tellement, Dieu nous donne tellement d'assurance, là. Dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. C'est pour ça que la religion ne peut jamais donner cette assurance-là. Mais l'œuvre de rédemption de Dieu, eh bien, Dieu nous donne toute assurance pour nous montrer qu'il est pleinement satisfait et que la transaction s'est accomplie une fois pour toutes quand le Seigneur Jésus s'est présenté dans le sanctuaire céleste, dans la présence de Dieu, qu'il a offert son sang une fois pour toutes. Le travail accompli dans le ciel, est efficace aussi avec Dieu. Il est efficace avec nous, mais il est efficace avec Dieu, puis c'est ça qui est important. Dans le verset 17 et 18, il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Fait que Dieu est satisfait, il n'y a plus besoin d'offrande. L'offrande a été faite une fois pour toutes, puis maintenant Dieu est satisfait pour toute l'éternité. Ça, c'est vraiment important ici de comprendre ça. Puis, le sacrifice est supérieur, troisièmement, par le résultat du sacrifice. Il est supérieur par le résultat. Le sacrifice accompli dans le vrai sanctuaire nous donne à nous maintenant l'accès dans ce sanctuaire. C'est impossible avant. Quand le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, quand lui avait été au-delà du voile, le peuple ne pouvait pas aller. Il ressortait de là, puis le voile restait là. L'accès était barré encore pour une autre année dans la présence de Dieu. Mais le fait que le résultat du sacrifice, c'est que nous, maintenant, on peut entrer dans ce sanctuaire-là. On a l'accès maintenant. Voyez-vous, dans le chapitre 10, les versets 19 à 21. Il dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Puis là, il dit, approchons-nous donc. Ça, c'est quelque chose qui est différent aussi de l'Ancienne Alliance. L'ancienne alliance, le sacrificateur allait, mais il ressortait. Le voile restait là. L'entrée était bloquée. Mais dans le nouvel, ce sacrifice-là, par le résultat du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, quand lui s'est présenté dans le sanctuaire céleste pour nous, ben maintenant, nous aussi, on a accès. Il n'y a plus le voile. Le voile s'est déchiré. Puis maintenant, nous, on a accès, comme il nous dit ici, là, nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Puis j'espère que c'est quelque chose qu'on apprécie, là. Vous savez, on prie, quand on prie le Seigneur, là, on va dans la présence de Dieu. On va dans le sanctuaire. Là où le Seigneur, on y va par la foi, mais on va là où le Seigneur a offert son sacrifice une fois pour toutes. Puis de là qu'il l'a fait pour nous, nous n'avons plus besoin du sanctuaire terrestre. Sanctuaire terrestre, on n'a plus besoin, puis même il a été détruit dans l'an 70. On n'a plus besoin parce qu'on est maintenant dans le sanctuaire céleste. Puis Dieu, il l'a laissé tomber, le sanctuaire terrestre. Il l'a laissé aux nations, puis ils l'ont détruit, puis on n'a plus besoin. Voyez au verset 9, il dit, au verset 9 du chapitre 10, il dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, on n'a plus besoin de ce sanctuaire-là. Après que Christ s'est offert, Dieu n'agréait plus les sacrifices sur la terre. Dieu n'agréait plus les sacrifices sur la terre maintenant. Puis quand ils vont, comme là, il n'y en a plus de sacrifices pendant longtemps. C'est Dieu qui a permis que ces sacrifices-là arrêtent. Eux, ils avaient recousu le voile. Puis ils avaient continué d'offrir des sacrifices, mais ces sacrifices-là n'ont jamais été agréés. Ils n'ont jamais été reçus par Dieu. Parce que le sacrifice avait supprimé. Eux, ils ont continué dans leur religion à les offrir, mais Dieu avait supprimé ces choses-là. Puis il a pas agréé ces sacrifices-là. Donc, le résultat attendu de Dieu pour nous en réponse au résultat du sacrifice. Puis là, on va voir, on va s'arrêter là pour ce soir, mais la semaine prochaine, Seigneur voulant, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça représente maintenant pour nous, là. On peut, il dit, approchons-nous donc, retenons fermement, puis n'abandonnons pas notre assemblée. C'est qu'on regarde ça, puis de ne pas abandonner aussi notre assurance. Donc, je m'arrête là pour ce soir. Je vous donne la possibilité de pouvoir reprendre votre micro et vous allez, si vous avez des commentaires, des questions, on va vous donner, on va passer un temps pour discuter ces choses-là.
Moi, Gérald, j'ai comme de la misère avec le texte qui dit que Christ a été amené à la perfection par les choses qu'il a souffert. Et de la manière que le texte, que je comprends le texte, c'est comme s'il disait que ils ont comme rajouté à sa perfection.
Comme s'il n'était pas parfait auparavant.
Ben, peut-être pas comme ça, là, mais c'est comme s'il avait monté d'un degré dans la perfection. J'hésite à séparer l'homme et Dieu pour dire que c'est dans son corps qu'il a été amené à la perfection, ou il a été poussé à la perfection. Je ne sais pas trop quoi penser sur ce texte-là. C'est comme si le Seigneur avait acquis, c'est sûr qu'il a prouvé. Par les souffrances qu'il a endurées, il a prouvé que son sacrifice était parfait, que lui était parfait. Fait que
Ben,
j'ai
c'est
comme
sûr,
de la misère à réconcilier là, la façon dont je pense avec
mais c'était en tant que
tout ça.
sacrificateur qu'il était amené il est devenu notre sacrificateur parfait. Il a été rendu parfait comme sacrificateur parce qu'il a connu la souffrance. Il sait de quoi il connaît notre souffrance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais le Seigneur, il ne comprend pas, lui. Puis, juste pour une histoire que j'avais entendue, c'était dans un témoignage d'un frère qui avait donné son témoignage une fois. Puis lui, il a
Verset
grandi, c'était
10, 14.
autant des persécutions physiques, là. Lui était un enfant né dans une famille chrétienne. Puis il disait qu'il n'était même pas sauvé. Il dit, je n'étais même pas sauvé. Mais il souffrait parce que les gens du dehors, les enfants à l'école, le persécutaient parce que pour eux autres, il était chrétien, il était d'une famille chrétienne. Là, puis il avait prié, là, il avait dit, Seigneur, il dit, moi, je suis sur la terre, là. puis je souffre pour toi, puis je suis même pas sauvé. Puis il dit, toi, tu comprends pas qu'est-ce que c'est de souffrir ici sur la terre. Puis finalement, éventuellement, il a compris que oui, le Seigneur le savait parce qu'il a souffert étant ici sur la terre. Puis c'est dans ce sens-là qu'il est devenu parfait sacrificateur pour nous autres parce qu'il nous comprend dans notre souffrance.
Okay. On va continuer à réfléchir.
C'est ça. C'est ça.
La tête est pas assez grosse.
Non, 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 mais c'est bon, c'est ça qu'il faut penser à ces choses-là. Mais quand on s'approche de lui, on sait qu'il nous comprend. Parce qu'il a souffert. Puis il a souffert plus que nous autres. Parce que non seulement il a souffert de la part des hommes, mais il a souffert aussi de la part de Dieu, de la justice de Dieu à cause de notre péché. Fait qu'il peut compatir avec nous.
J'aurais un verset là. Ça me chicote là. Le chapitre 10, verset 17.
OK.
Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est quoi la différence entre péché et iniquité?
Ben, le péché, c'est manquer la marque. C'est comme si tu tires une flèche puis tu manques le but, là. Ben là, c'est ça qu'on est. Donc, notre péché fait en sorte qu'on manque le but. Notre but, c'était de glorifier Dieu. Mais on ne peut plus le glorifier à cause de notre péché. Mais l'iniquité, c'est vraiment le désordre, la désobéissance à Dieu. C'est ça. Mais le péché, c'est ce qui nous fait manquer le but. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. Puis l'iniquité, ben, c'est un peu comme les œuvres.
Dans le dictionnaire, iniquité, il me semble qu'il disait que c'était une offense très grave à Dieu. Une offense très grave. Hein?
Oui, mais le péché, peut-être que ça pourrait dire quand tu n'es pas encore sauvé.
Ben, c'est sûr que non, le péché, même après qu'on est sauvé, dans un sens, mais oui, quand on est. Il y a le péché, puis les péchés. T'sais. Le péché, c'est l'ensemble, c'est ce qui nous fait manquer le but de Dieu. Mais c'est comme des variances de la même chose. Le mot, quand il parle de l'homme inique, c'est l'homme sans loi. C'est l'homme qui est. Puis Dieu qui est un Dieu d'ordre. Ben, le désordre, c'est contre le caractère de Dieu. C'est ça, l'iniquité, c'est d'être comme, c'est de ne pas être selon le caractère de Dieu. Dieu avait créé l'homme à son image, mais le péché est entré dans le monde, ben, ça fait en sorte qu'on manque le but.
On va dire comme mon frère, on va réfléchir à ça.
Oui, c'est ça.
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est bon avec la parole de Dieu, c'est que c'est d'avoir des questions. Puis des fois, les questions, les points d'interrogation, ça prend un temps avant de. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Si on n'avait pas de point d'interrogation, ben on la lirait une fois, puis ça serait fini. Mais à mesure que Dieu répond à des questions, ben, il en suscite d'autres. C'est pour ça qu'on continue tout le temps dans la parole de Dieu.
On en
J'aurais
prendra.
envie de. Excusez.
Je dis, on en prendra toujours, même si on vivra 1000 ans.
Ouais.
Exact.
C'est ça.
J'aurais envie de lire un petit texte, parce que c'est beau de la manière dont tu as présenté ça encore ce soir. C'est-à-dire que même avant que le monde soit créé, Dieu nous avait prédestinés dans son amour. Hein, le sacrifice, il
C'est
avait
ouais,
été
la Bible dit
prévu.
que ouais.
Puis dans 1 Pierre, ça parle de ces choses-là. Je vais lire juste quelques versets, là. Ça dit, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, là, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'est magnifique la parole de Dieu.
Ça vient justement prouver sa sainteté, puis ça vient justement prouver parce qu'il a souffert, puis dans 1 Pierre, justement, je disais dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le Seigneur Jésus a justement prouvé sa sainteté puis sa victoire aussi, parce qu'il était jugé, il était injustement, lui qui n'avait pas commis aucun crime. Il était traité comme un coupable, mais il a eu la victoire là-dessus parce qu'il était sans péché. Il était l'agneau sans défaut et sans tache. C'est un exemple qu'il nous a donné, mais nous autres, on est des pécheurs, puis on le sait qu'on est coupable. Mais lui, il n'était pas coupable. Il a été traité comme un coupable, lui qui n'était pas coupable, mais il n'a pas menacé, puis il n'a pas ouvert la bouche. C'est sa supériorité, sa sainteté. Moi, c'est ce que je comprends, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a été un exemple parfait. Un exemple parfait à nous qui sommes des pécheurs, lui qui était sans péché.
Il revient une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent pour leur salut.
Ouais, c'est quelque chose de se faire accuser injustement quand tu n'as rien fait. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein. On m'avait condamné d'un certain sens, là. Ben, je ne compterai pas toute l'histoire, mais je n'étais pas coupable, puis on m'a accusé. Ben, c'est quelque chose, ça.
Mais en plus, comme dire, des fois, on ne peut pas le prouver qu'on n'est pas coupable. Mais lui, il aurait pu le prouver.
Je ne pouvais pas le prouver, moi non plus. Non.
Justement, une idée qui me vient souvent, c'est qu'il y avait la toute-puissance de changer la situation. Puis, vous savez, quand tu as la puissance de te défendre, puis tout ça, souvent, tu vas le prendre parce que tu t'endureras pas qu'on te maltraite. Mais lui, il a eu la victoire par les choses qu'il a souffertes dans la soumission, dans sa perfection. C'est en dehors de la nature, en tout cas de la mienne.
Des fois, on subit parce qu'on n'a pas le choix.
Il s'est vraiment humilié.
Ça, c'est par amour pour nous, hein, c'est ça.
C'est ça.
Corrie Ten Boom, elle disait elle parlait d'une situation, elle disait que les gens avaient agi injustement envers elle. Puis celui qui lui demandait, il dit, es-tu sûr qu'il avait vraiment agi injustement envers toi? Ben, elle dit, oui, elle dit, j'ai des lettres qui le prouvent. Ben, puis elle disait qu'elle l'avait pardonné. Elle dit, tu ne l'as pas pardonné. Si tu l'avais pardonné, tu aurais détruit les lettres qui prouvaient que tu avais pardonné.
Injurier ne rendait point l'injure.
C'est ça. Bon, bien, on va peut-être terminer par un mot de prière, puis ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. On va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, quelle joie, quel bonheur nous avons, notre Dieu, de savoir toutes ces choses, de savoir que le sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes à la croix du Calvaire est suffisant, Seigneur. Puis on est dans l'assurance, on est dans la joie, on est dans le bonheur, notre Dieu, parce que toi, tu as été satisfait. Puis le Saint-Esprit nous atteste que ces choses sont pour nous en mettant tes lois dans nos cœurs, dans notre esprit. On te remercie, Seigneur, que tu ne te souviens plus de nos péchés, parce que Christ Il a pris en son corps sur le bois, il a subi le châtiment que méritaient nos crimes. Merci, notre Dieu. C'est dans une grande joie que maintenant on a le libre accès dans ta présence à travers cette route nouvelle et vivante. On te rend grâce, notre Dieu, de nous de profiter, de jouir pleinement de ce salut si merveilleux dans la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.